Oui, nous allons parler ce soir d'un thème qui est plus que d'actualité. Il s'agit de la personne du Seigneur Jésus, parce que pendant que celui-ci était avec ses disciples, il va leur demander, il va leur poser une question. Qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? Et je pense que cette question est plus que d'actualité aujourd'hui. C'est pour ça que le titre de ce message va reprendre donc ces mots qui furent dits jadis par le Seigneur Jésus. Qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? Je vais vous inviter à prendre un passage dans les Saintes Écritures, dans Matthieu 16, du verset 13 à 17. Matthieu 16, 13 à 17. Je vais vous le lire. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée et de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis ? Moi, le Fils de l'homme. » Et répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » C'est mon Père qui est dans les cieux. Vous savez, les disciples avaient été appelés par le Seigneur Jésus. Et ces disciples suivaient le Seigneur. Cependant, le Seigneur voulait s'assurer qu'il savait exactement qui il suivait et pourquoi il le suivait. Et de même aussi, les disciples n'étaient pas les seuls, parce qu'il y avait aussi la foule qui suivait le Seigneur Jésus. Mais nous avons vu dans les Saintes Écritures que ces foules suivaient Jésus pour des tas de raisons. Et ces raisons étaient différentes les unes par rapport aux autres. Il y en avait qui suivaient le Seigneur Jésus, tout simplement parce que le moment venu, il était capable de changer, n'est-ce pas, l'eau en vin, comme aux noces de Cana. Il était capable aussi de faire des miracles, de leur donner à boire, de leur donner à manger. Et il pouvait multiplier les pains. Il pouvait multiplier les poissons quand c'était nécessaire pour nourrir la foule qui était autour de lui. Le Seigneur veillait au bien-être matériel de tous ceux qui le suivaient. Il dira un jour à ses disciples, mais si la foule a faim, mais donnez-leur vous-même à manger. Une bonne partie de ces gens, oui, suivaient donc le Seigneur, parce qu'ils étaient sûrs qu'ils pouvaient être à l'abri du besoin. Ils pouvaient être à l'abri du besoin. Et c'était la motivation qui les mettait en marche à la suite du Seigneur. Ici se pose donc la question de la motivation. Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un, un homme, une femme, à suivre le Seigneur Jésus? C'est la question de la motivation. Et cette question ne se posait pas seulement au temps du Seigneur Jésus, quand il était encore sur cette terre. De nos jours encore, cette question se pose. Pas seulement aux gens du dehors aussi, mais quelquefois même dans l'Église, cette question de la motivation pourrait se poser à un moment donné de notre vie. Oui, la recherche des biens matériels, le manger et le boire, sont-elles des raisons suffisantes pour suivre le Seigneur? Oui, si quelqu'un suit le Seigneur juste parce qu'il va trouver un bon travail, le Seigneur pourvoit. Parce qu'il va avoir une bonne situation. Parce que s'il est malade, il sera guéri. Le Seigneur guérissait les malades. Le Seigneur est encore capable de faire toutes ces choses aujourd'hui. Je dirais même que, ah oui, le Seigneur le fera dans sa bonté. Mais ces raisons sont-elles suffisantes pour nous ancrer dans le Seigneur résolument? Qu'arrivera-t-il lorsque nous allons perdre cette situation qui nous motivait à suivre le Seigneur? Lorsque, dans certains cas de maladie aussi, vous savez, on passe tous par des situations de maladie, des situations difficiles. Dans certaines maladies, peut-être que le Seigneur te dira, comme il a dit jadis à Paul, « Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. » Qu'en sera-t-il? Est-ce que nous serons complètement découragés? Ou au contraire, continuerons-nous à servir fidèlement le Seigneur malgré tout? Le Seigneur est fidèle. Oui, la raison qui nous pousse à servir le Seigneur ne doit pas se limiter aux choses terrestres. Le Seigneur nous donne plein de choses terrestres. Mais ces choses, je dirais, ne sont que cerises sur le gâteau. Cerises sur le gâteau. Nous devons aller au-delà, voir au-delà de ces choses. Et la raison doit être hautement spirituelle et non pas matérielle. Parce que le Seigneur dira à la femme samaritaine, ceux qui adorent, adorent en esprit et en vérité. L'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Donc, la raison doit être hautement spirituelle. Oui, des grandes foules suivaient le Seigneur, et comme je venais de dire, chacun avait ses raisons, et le Seigneur le savait. C'est pour cela qu'il va poser cette question à ses disciples. Mais qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Et puis, les disciples vont s'empresser à dire, mais les uns disent que tu es Jean-Baptiste qui est revenu. Vous savez, à ce moment-là, Jean-Baptiste était déjà mort, et il avait été décapité par Hérode. Et certains qui connaissaient bien Jean-Baptiste disaient, mais avec les miracles que le Seigneur Jésus fait, ce n'est que Jean-Baptiste qui est revenu. Et certains autres disaient, mais non, c'est pas Jean-Baptiste, c'est plutôt Élie, parce que dans la prophétie, Élie devait revenir. Mais Élie était venu en la personne de Jean-Baptiste déjà, celui qui crie dans les déserts, qui a plani le chantier du Seigneur. C'était Jean-Baptiste lui-même. Mais beaucoup l'ont pas connu. Et certains prétendaient que le Seigneur Jésus, c'était Élie qui devait revenir. Et c'était pas vrai. Et certains aussi, voyant les merveilles qui étaient accomplies par le Seigneur Jésus, mais ça peut venir que de Dieu. Et ça doit être Jérémie qui est revenu, ou l'un des prophètes de l'Ancien Testament. Là aussi, il se trompait grandement. Et vous voyez que personne dans la foule ne donnait la vraie réponse par rapport à qui était réellement le Seigneur Jésus. Vous savez, ces foules avaient suivi le Seigneur sans pour autant savoir réellement qui il était. Certains avaient suivi le Seigneur pendant longtemps, peut-être des années, des mois. Et c'était tous là à suivre le Seigneur. Mais personne dans la foule ne savait clairement qui était le Seigneur, Jésus. Vous voyez, on peut en faire un parallèle aujourd'hui. On peut faire un parallèle aujourd'hui. De nos jours, dans l'Église, Il n'est pas rare de trouver quelques personnes, heureusement ce n'est pas la majorité, qui suivraient le Seigneur sans savoir exactement, dans le détail, qui il est. Vous savez, ceux qui veulent marcher victorieusement à la suite du Seigneur doivent s'appliquer à connaître parfaitement qui est leur Seigneur, qui est leur Sauveur. Et ceci demande une vie de sanctification, demande une vie d'application dans les enseignements qui sont reçus. Dans cette église, nous sommes vraiment gâtés avec le cours INSEE, avec les prédications. Soyons assidus à ces enseignements, parce que ces enseignements nous apprennent jour après jour à connaître encore et encore. C'est comme un édifice qu'on est en train de bâtir jour après jour. Ces enseignements nous apprennent qui est notre Dieu. Une vie de prière assidue. Vous savez, quand nous sommes face à face à notre Dieu, nous permettons à Dieu de nous parler. Une vie de prière assidue au pied du Seigneur. Je ne sais pas si ça vous arrive souvent. Quand je me lève le matin, je suis un peu comme fatigué. Et quand j'ai passé quelques moments devant le Seigneur, je suis rafraîchi. Je pars, je sors de la maison en allant. Je suis comme, boosté. Parce que j'ai passé du temps avec le Seigneur. Il m'a rechargé. Il y a ma bien-aimée là qui vient de dire, quand je l'ai rencontrée, elle était fatiguée. Elle dit, mais je viens me recharger. Oui, quand nous passons du temps avec le Seigneur, il nous recharge. Prenons du temps. Passons du temps. Prenons du temps au temps. C'est une question de choix. Et passons du temps dans l'enseignement. Assidûment. Des moments de prière. Des moments de méditation de la parole de Dieu. Vous savez, quand on médite la parole de Dieu, on donne l'occasion à Dieu de nous parler. Par rapport à des situations les plus multiples qui peuvent se venir dans notre vie. Si nous ne sommes pas devant le Seigneur, nous faisons autre chose. Nous ne serons pas attentifs. Il voudrait bien nous parler. Le Saint-Esprit, quelquefois, nous parle même. Peut-être qu'on ne comprend pas, on n'entend pas, parce qu'on n'est pas disposé. Alors que, quand nous sommes dans la méditation de sa parole, on donne l'occasion à Dieu de nous parler. Nous sommes disposés. Et il nous apprend de plus en plus qui il est. Qui il est. Vous savez, on ne saura jamais à 100% ce qui est notre Dieu. Parce qu'il est infiniment grand. Il est toujours plus que ce que nous pouvons penser, imaginer. Mais il nous donne ce privilège de le connaître de mieux en mieux. Jésus savait tout cela. Et après avoir écouté ses disciples, il va dans ce tourner vers eux. Il a dit, oui, la foule a dit ceci, la foule a dit cela. Et vous, qui m'avez suivi, vous avez tout laissé, famille, champ, pêche. Il y avait des pêcheurs avec le Seigneur. Vous avez tout laissé, votre profession. Et vous m'avez suivi. Et vous, qui pensez-vous que je suis? Qui pensez-vous que je suis? La même question pourrait se poser à l'église aujourd'hui. Parce que les disciples étaient avec le Seigneur matin, midi, soir. Ils mangeaient avec lui. Ils ne quittaient jamais. Il s'est tourné vers eux. Il a dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Et vous savez que les disciples avaient été aussi instruits. Ils avaient été instruits au pied du Seigneur Jésus. Pendant 3 ans. Ils étaient assidus au pied du Seigneur. Ils avaient reçu de façon appliquée les enseignements du Seigneur. C'était vraiment à la source qu'ils avaient puisé. Et vous allez voir qu'il y a une différence notable entre ceux qui sont assidus au pied du Seigneur et ceux qui, comme la foule, venaient de temps en temps, ils passaient leur chemin, de quelquefois ils venaient, ils partaient. On sait pas, on les maîtrisait pas de toute façon, une foule, on la maîtrise pas. Mais il y a une différence entre ceux qui sont appliqués à suivre le Seigneur. Ils sont disciplinés. On peut savoir à chaque moment qu'ils seront là. On peut compter sur eux. Le Seigneur peut compter sur eux. Il y a une grande différence. Et ceux qui, de temps à autre, peuvent apparaître et disparaître, on ne peut jamais savoir s'ils seront là ou pas. Et c'était un peu comme ça, la foule. Et cette différence s'est vue dans la réponse, va se voir aussi dans la réponse apportée. Alors que la foule avait cité et donné toutes les réponses qui étaient toujours à côté de la plaque, une seule réponse sera donnée par les disciples. Et à cette question, qui dites-vous que je suis, posée par le Seigneur, Pierre, j'aime Pierre, il est vif, il est toujours prêt à répondre le premier. Il s'est levé, il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Vous savez, aujourd'hui, cette déclaration, on connaît, hein, on sait que c'est le Seigneur, etc. Mais à cette époque-là, c'était révolutionnaire, cette déclaration. C'était, d'ailleurs, le Seigneur Jésus lui dira, mais c'est pas la chair et le sang, c'est pas par ton intelligence. Tu as été inspiré par le Père pour faire cette déclaration. Parce qu'au premier siècle, cette affirmation était une véritable révélation. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël attendait la venue du Messie depuis plus de 15 siècles. C'est pas 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ils attendaient ce Messie. Ils attendaient le Messie. Les prophètes même avaient annoncé la venue du Seigneur Jésus. Ils l'attendaient de pied ferme. Et le peuple était vraiment assis, attendant la venue du Messie. Et ce Messie devait lui leur ouvrir une ère nouvelle. Ils savaient. Ils attendaient, ils savaient. Israël savait et attendait le Messie. Et cette déclaration vient mettre un terme à cette attente. C'est comme un aboutissement. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ce Christ qui a été attendu depuis des siècles était là. Le Christ, ça veut dire le Sauveur. Ce Sauveur du monde était enfin là. Les hommes pouvaient désormais être réconciliés avec Dieu, leur Créateur. C'est pour ça qu'on parle souvent de la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle est annoncée. La foule n'avait pas vu en Jésus le Sauveur attendu, le Fils de Dieu qui devait venir ouvrir une ère nouvelle, un chemin, lui qui est la vérité, le chemin et la vie. La foule avait donné une place certes honorifique au Seigneur Jésus, parce que dire de quelqu'un que c'était l'incarnation de Jean-Baptiste qui devait venir, c'était pas anodin. Il le reconnaissait quand même. Mais c'était rien par rapport à ce qu'est le Seigneur réellement. Certains avaient dit qu'il était Jérémie, Élie revenu. C'était des places honorifiques. On ne peut pas cracher dessus. Mais ces places n'égalaient en rien ce qu'est réellement le Seigneur Jésus. Oui, puisque le Seigneur Jésus, c'est le Sauveur attendu, je disais tantôt, celui qui devait venir arracher, n'est-ce pas, toute âme des griffes de l'ennemi et l'introduire dans la présence de Dieu. C'est le roi des rois. Il n'y a personne, aucun roi qui est au-dessus de lui. C'est de lui qu'on parle, le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur des seigneurs. C'est l'Éternel. Le Seigneur Jésus est Dieu. Voilà de qui on parle aujourd'hui. Et la foule ne le savait pas. Ésaïe, chapitre 9, verset 6, avait déjà prédit longtemps à l'avance ce qui devait arriver au temps du Seigneur Jésus. Il est dit ceci, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Voilà qui est le Seigneur Jésus. Quand il pose cette question, il savait que non seulement la foule, mais les disciples avaient besoin, n'est-ce pas, d'être rassurés. Ils avaient besoin d'être rappelés pour pouvoir ancrer en eux-mêmes ce qu'est réellement le Seigneur Jésus, le Sauveur du monde, celui qui devait venir racheter tout homme et toute femme de nos péchés et nous donner la vie éternelle. Oui, je disais tantôt que le Seigneur Jésus, c'est le roi des rois, celui qui a autorité. Il a autorité sur toutes choses. Il dit, et la chose se passe. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Dans Matthieu 28, verset 18, il dira, c'est une des dernières paroles du Seigneur Jésus, il dira, Jésus s'étant rapproché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » C'est vrai. Le Seigneur Jésus a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Ce pouvoir lui a été donné. Il a autorité sur toutes choses. Il a autorité sur tout peuple. Il a autorité sur toute nation, sur tout pays, sur tout gouvernement. Il a autorité sur la destinée de tout homme, de toute famille, de toute nation. Il a tout cela entre ses mains. C'est ça notre Dieu. C'est lui le Seigneur Jésus. Le Seigneur est aussi le Seigneur des seigneurs. Il n'y a aucun Seigneur qui est au-dessus de lui. Ça veut dire qu'il mérite notre honneur. Il mérite la gloire. Parce que c'est à lui que reviennent toutes ces choses. Et il y a un domaine dans lequel nous, chrétiens, nous avons peut-être encore des progrès à faire. C'est la reconnaissance de la majesté du Seigneur. Vous savez, quand nous venons dans cette église, le Seigneur nous dit, mais là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça veut dire qu'il est là. Il est là, parmi nous. Et là, est-ce que nous rendons toujours cette révérence qui lui est due? Cette majesté qui lui est due? Il est là, le Seigneur. N'en doutons pas. Oui, je pense que c'est un domaine où, moi le premier, nous avons des progrès à faire. Reconnaître la majesté de Dieu. Non seulement en parole, mais aussi en acte. Parce que si le Seigneur est accessible, il se rend accessible. Nous devons le traiter néanmoins avec égard. Il est accessible. Il mérite notre respect. Ses enfants que nous sommes doivent lui rendre hommage. Par nos paroles même. par nos attitudes, par nos postures. Oui, parce que si nous ne faisons pas attention, il y a quelque chose qui nous guette en tant qu'enfant de Dieu, c'est le péché de la familiarité avec Dieu. Péché de la familiarité avec Dieu. Parce que Dieu est certes notre Père. C'est pour ça qu'il se laisse trouver. C'est pour ça qu'il est proche de nous. Il nous porte. Mais n'oublions pas qu'il est aussi le grand Dieu, puissant et redoutable, créateur de l'univers. Ne nous limitons pas seulement, n'est-ce pas, à cet attribut de Père par rapport à notre Dieu. Oui, quelquefois on peut être tenté de lui taper par l'épaule. Mais c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oui, nous devons un profond respect lorsque nous sommes en sa présence. Nous devons lui rendre un culte parce qu'il le mérite. Je prends souvent l'exemple d'un président de la République qui a un fils. Et par rapport à ce fils, il est papa et président. Et ce fils doit faire la part des choses. Sinon, on devait faire face à des incidents protocolaires. Parce qu'il n'arrive pas à faire face. La différence entre le statut de père et le statut de président de la République. Pendant que son père est en train de faire un discours, il peut venir peut-être le taper par l'épaule ou bien je ne sais plus quoi. Ça va faire désordre. Quelquefois, les enfants de Dieu, si on ne fait pas attention, on risque d'être comme ce fils-là. Fait la part des choses. Évitons le piège de la familiarité avec Dieu. Parce que cette familiarité peut nous empêcher, n'est-ce pas, de voir la majesté, la grandeur, la seigneurie de notre Dieu. Le Seigneur est aussi le Dieu éternel. Il était, il est, et il vit éternellement. C'est quelque chose qui me dépasse. Il était, il est et il vit éternellement. C'est le Dieu éternel. C'est pour ça qu'il peut nous proposer la vie éternelle, parce qu'il vit au travers du temps. Il est en dehors du temps. Il voit le temps passer. Il n'est pas dans le temps. Nous devons donc avoir cette vision de la vie éternelle. Et quelquefois, la question que je me pose, à moi le premier, que vous pouvez aussi vous poser, est-ce que je suis intéressé par la vie éternelle qui est proposée par le Seigneur? Parce que la vie éternelle, chers frères et sœurs, c'est un aspect très important, n'est-ce pas, de l'engagement avec Dieu. Et la vie éternelle devrait être le centre même de notre espérance chrétienne. Parce que si tel n'est pas le cas, nous sommes en train de passer à côté de l'essentiel de notre vie chrétienne. Nous allons faire beaucoup de choses, mais l'essentiel risquera de nous échapper. La parole dans Marc 8, verset 36 dit ceci, « Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ?» Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Nous devons donc avoir cette vision de l'éternité. N'oublions pas que c'est pour cela que le Seigneur Jésus est descendu. Il est descendu parce que il voulait nous sauver et nous donner la vie éternelle. Et comme je viens de dire, les autres choses sont importantes, certes, mais ce sont des cerises sur le gâteau. Et le Seigneur Jésus est proche. Et il nous conseille de vivre dans l'attente imminente de son retour. C'est-à-dire vivre comme si c'était que le Seigneur Jésus viendrait l'instant d'après. L'instant d'après, il sera là. Parce qu'il dit qu'il viendra comme un voleur dans la nuit, au moment où nous attendons le moins. Pour finir ce message, je vous inviterai aussi à revenir sur le passage de Matthieu 16 que nous avons lu au verset 17. Parce que le Seigneur dira à Pierre, après sa déclaration, il lui dira, mais tu es heureux, Pierre. Il déclara à Pierre, tu es heureux. Pourquoi le Seigneur dit-il à Pierre qu'il est heureux? Tout simplement parce qu'il avait compris qui était réellement le Seigneur. Si nous avons compris qui est réellement notre Dieu, nous sommes les plus heureux des hommes, comme Pierre. Il avait compris que le Seigneur Jésus qui se tenait devant lui, c'était le Messie, le Sauveur attendu depuis des générations. Dieu qui s'est fait homme et qui est venu apporter le salut à l'ensemble de l'humanité. Aujourd'hui, la question qu'on devrait se poser, est-ce que le Seigneur peut me déclarer heureux? Comme jadis, il le fit avec Pierre. Tu es heureux, Pierre. Et bien sûr, le Seigneur est le Seigneur de nos vies. Il est le Seigneur de nos vies. Il n'est pas seulement le Seigneur des Seigneurs, mais le Seigneur aussi de nos vies. Le psaume 139, au verset 16, dit ceci. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Quand je n'étais qu'une masse informe, le Seigneur, ça veut dire que quand on était encore dans le sein de notre mère, le Seigneur Jésus nous voyait déjà et nous avait déjà aimés. Il nous avait déjà aimés. Dieu a-t-il toute la place dans notre existence? Sinon, est-ce que c'est juste de temps en temps que nous donnons un peu de place au Seigneur à notre convenance? Proverbe 3, les versets 5 à 6 dira aussi, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. C'est la suite qui est plus intéressante. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Oui, il est bon de reconnaître Dieu dans toutes nos voies. Dans toutes nos voies, nous devons reconnaître Dieu. L'Éternel doit régner sur nos cœurs. Il doit régner dans tous les domaines de notre vie, car l'Éternel veut aplanir nos sentiers. Mais il ne peut le faire que si nous lui donnons les rênes de notre vie. Si nous les conservons, il ne pourra pas. Il a besoin des rênes pour pouvoir aplanir nos sentiers. Pendant que nous terminons dans ce message, ma prière est que le Saint-Esprit nous aide à reconnaître jour après jour pleinement qui est réellement le Seigneur Jésus. Et que le Saint-Esprit nous aide aussi à donner au Seigneur la place qui lui est due dans nos vies. Ainsi, nos vies viendront à honorer le Seigneur car elles seront conformes à la volonté parfaite du Très-Haut. Que le Seigneur nous écoute. Soyez abondamment bénis. Amen.